L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission, le magazine de Radio Évasion en partenariat mensuel avec l'USPG, Université des sciences et pratiques gastronomiques basée à Quimper, une association qui veut faire entrer l'alimentation en transition, qui nous propose une réflexion approfondie sur ce que nous mangeons. Cette année, on vous propose même conjointement de découvrir en profondeur quelques métiers de l'alimentation, de la production à la vente des aliments en passant par la transformation. On a reçu par exemple une productrice de semences. Xavier Hamon, qui a fondé l'USPG, nous a lui-même raconté les vraies coulisses de son métier de cuisinier. Alors il n'est pas avec nous aujourd'hui, il est tout excusé. Et dernièrement, on s'est orienté beaucoup vers la farine avec le meunier, la pâtissière, il nous manquait le boulanger. Aujourd'hui, il est avec nous. Et en plus, le nom de sa boulangerie est particulièrement radiophonique puisque c'est Parole de Pain. Julien Floch vient de Plonéo-Lanverne, en Pays Bigoudin. On l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel genre de boulanger êtes-vous ?
Alors, nous, on est installé à Plonéo. On fait du pain bio depuis 20 ans. Donc, c'est du pain tout simplement. On ne fait pas de pâtisserie. Voilà, on fait une production toute simple. On a une petite gamme de pains voilà, spéciaux.
Ouais. En gros, vous en avez combien ?
On est 100% bio, quoi. On a une vingtaine de pains. Ah oui. Spéciaux, ouais.
Donc depuis 20 ans, ça veut dire que vous étiez un peu pionnier quand même.
Je sais pas, il y en avait avant moi, hein, mais c'est vrai que quand on s'est installé, il y avait beaucoup moins de biocoop, le bio était en plein développement. Il est un peu en crise maintenant, mais voilà, ça fait 20 ans, voilà, on chemine tranquillement.
Et vous étiez à Pont-l'Abbé pour donner
on était à Pont-l'Abbé, et là maintenant, donc on a investi dans notre outil de travail, on a construit notre boulangerie à Plonéo, ça fait un an maintenant. Et donc, on en a profité pour utiliser des matériaux les plus écolos possibles. On a du bois. Voilà.
C'est une démarche globale.
Oui, on essaye en tout cas.
Et vous étiez vous-même, Julien Floch, et puis peut-être vos collaborateurs et collaboratrices formés dans le coin
Alors, pas du tout. Moi, souvent, dans les boulangeries, à l'époque, quand j'ai commencé, les boulangers bio avaient des parcours assez atypiques, en fait. Et donc, moi, j'ai fait plein de choses avant. Et puis, voilà, c'est un peu par hasard que je suis tombé sur du pain bio à un mariage. Et ça a été un peu le coup de foudre.
Ah bah oui, un mariage, c'est bien normal.
Et puis, du coup, je suis allé faire du pain avec cette personne-là qui faisait au pétrissage à la main, au fagot, et ainsi de suite. Ça m'a vraiment passionné. Et puis, donc, j'ai fait un peu mon tour de Bretagne, des paysans boulangers au fagot.
Vous étiez quand même en Bretagne, déjà.
J'étais en Bretagne, j'étais en Bretagne, dans ce Finistère. Et puis, j'ai construit mon premier petit four dans mon jardin, j'ai commencé à faire du pain, les voisins ont trouvé ça sympa, les copains, tout ça, et puis voilà.
Ah oui, et donc,
tranquillement.
Et là, la boulangerie, donc Parole de Pain, c'est quand même une boulangerie d'une certaine taille, on va dire.
Bah oui, voilà, tranquillement, on a répondu à la demande. Hein. C'est vrai que la demande n'a fait que croître. Donc au début, il y avait moi et puis mon épouse Alice. Et puis après, il y a eu un copain qu'on a formé pour venir nous filer un coup de main parce que voilà, on n'arrivait pas à fournir. Après, on a embauché un boulanger. Et puis voilà, on était à trois pendant un bon moment. Alors maintenant, on est à quatre boulanger, et ça permet aussi, comme je disais, d'avoir des vacances, de souffler un peu. Voilà, c'est une taille qui est, pour moi, qui est bien, quoi. Voilà.
Oui.
J'aurais pas envie de faire plus grand que ça. Et puis c'est surtout, bon, après, ça dépend de la demande. Hein. Nous, on s'adapte à la demande.
Mm-hmm. Ouais. Vous avez pas de demande de pâtisserie. Enfin, en tout cas, vous y résistez.
Si, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement faire ça. Après, ça a été très compliqué pendant des années d'avoir les ingrédients en pâtisserie. En bio, pur bio. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on ne s'est pas dirigé là-dedans. Je sais qu'il y a pas mal de boulangers bio qui faisaient des pâtisseries non bio, parce qu'en fait, c'est
compliqué. Simple.
Alors on a droit, quand on n'a pas l'ingrédient en bio, on a droit d'utiliser du non bio, mais bon, sur le principe, c'est pas satisfaisant. Et puis donc voilà, plutôt que de mal faire, on a préféré se concentrer sur...
Et les viennoiseries, ça compte dans la pâtisserie ou ça compte
non,
dans le pain ?
Ça compte dans le pain.
Donc voilà. Vous en faites.
Oui, on en fait. Mmh. On en fait parce que aussi les ingrédients, pour faire de la viennoiserie, il faut du beurre de tourage, un beurre particulier qui a été travaillé, tout ça. Et en fait, on ne trouvait pas ça en bio il y a longtemps. Donc on avait fait des essais assez catastrophiques. Et je trouve que parfois, c'est encore un peu catastrophique. Pas chez nous, mais je trouve que des fois, voilà, la viennoiserie, c'est quand même particulier.
Ah oui ?
Il faut que ça soit aéré, léger, tout ça. Et voilà, le croissant un peu lourd, un peu dense, voilà, je sais pas si ça colle. Donc du coup, moi j'ai pas voulu faire ça pendant des années. Et puis là, on s'est réessayé avec le beurre de tourrage bio et ainsi de suite. Et puis ça marche pas mal.
Ça veut dire quoi du beurre de tourrage ?
Alors le beurre, c'est un beurre qui a été travaillé, qui est un peu moins gras, on va dire, qui a une des qualités mécaniques, parce qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il tienne bien le fait de le rabaisser, c'est-à-dire de faire des tours très très fins.
Ouais. Oui, parce que c'est une pâte feuilletée, le croissant.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il a des qualités mécaniques. Alors, il faudrait inviter quelqu'un qui travaille le beurre.
D'accord, mais
c'est super intéressant. C'est super intéressant, hein, le beurre en soi.
C'est un beurre qui est aéré, en fait, en quelque sorte.
Non. C'est un beurre qui va être un peu moins gras, plus mécanique, on va dire, plus dur, plus sec, plus. voilà, qui va mieux réagir au travail du laminoir.
Ah, ouais. Voilà.
Parce qu'on fait des tours et des tours. Et bon, si on a un beurre qui part. Voilà, qui part, qui se mélange trop, qui se déchire, tout ça, ça ne va pas.
Et vous les faites à la main, tout ça ? Enfin, justement, qu'est-ce que vous avez comme machine ?
C'est le laminoir. Enfin, d'accord. Un laminoir, c'est comme un rouleau à pâtisserie, version...
mécanisé, quoi.
Voilà, mécanisé, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, en fait. On rabaisse, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un pâton qui va faire 1 cm, 2 cm, et puis petit à petit, on le passe dans un sens et dans l'autre. Et on le rabaisse petit à petit pour l'étaler.
Ah, on le plie pas.
Une fois qu'il est assez fin, on le plie,
et on recommence.
On le tourne et on recommence à l'étaler. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte.
La boulangerie en général, de toute façon, est devenue un métier moins physique maintenant. Enfin, il y a quand même pas mal de machines qui aident les boulangers.
Oui. Alors nous, au départ, on pétrissait à la main pendant. On a démarré au fagot, à la main.
Alors, les fagots, c'est quoi
Alors ça, c'est les fours, du coup. Hein. Vraiment, c'est un peu deux choses un peu séparées. Il y a le travail de la pâte et puis il y a le travail du four. Alors, dans le temps, quand on chauffait des fours au fagot, il y avait un chauffeur de four. Il y avait un gars, c'était son métier. Le boulanger disait, moi, je vais enfourner à midi. Et puis, donc, il y avait le chauffeur de four qui s'arrangeait pour que le four soit chaud à midi, quoi.
Et vous êtes toujours au fagot ou...
Non, pas du tout. D'accord, là, on est passé au granulé, on a été au bois pendant longtemps. Et là, avec la nouvelle boulangerie, on s'est équipé avec des granulés. Donc, voilà, c'est... Alors, je crois qu'en termes de qualité, de gustatif, tout ça, on ne peut pas tellement mieux faire que les fours à fagot direct.
Ah oui, ça donnait carrément... vraiment un goût au pain, quoi.
Il y a un goût de... Oh, puis on fait ça sur la pierre directement. Il y a toujours un peu de braise qui reste entre les pierres. Il y a l'arôme, la fumée, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très diététique, si c'est très bon pour la santé,
mais
en termes de goût, on va dire qu'il y a des arômes très particuliers qui se développent. Après, c'est vraiment par rapport au confort du boulanger. C'est compliqué.
Ouais, hein. C'est ça.
Moi, je croise encore des collègues qui chauffent au fagot. C'est physiquement. Et puis voilà, on respire de la fumée. C'est harassant, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis il faut vraiment veiller à la température.
Oui, et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est le four qui dit quand le four est prêt, on envoie le pain.
Ah ouais, d'accord.
Alors que maintenant.
Et si vous n'êtes pas prêt, tant pis.
Si vous n'êtes pas prêt, donc le pain est toujours un peu. Ou trop levé, ou pas assez levé, ou trop cuit, ou pas assez cuit. Voilà, mais après, ça, c'est les imperfections qui font que c'est aussi quelque chose de sympa.
Oui,
voilà,
bien sûr.
C'est bon.
Mais bon.
Mais après, pour le travail, vraiment, moi, par exemple, j'ai apprécié de passer à des fours un peu plus modernes, où j'ai pu me concentrer sur la pâte, et que le four suive plutôt la pâte que l'inverse.
Ouais. Voilà. Alors la pâte, donc vous étiez en train de nous dire qu'au début, c'était à la main, puis...
Voilà, alors bon, c'est toujours intéressant d'apprendre à pétrir à la main parce qu'on sent les choses, voilà, on sent comment la pâte se transforme au fur et à mesure du travail. Donc après, quand on passe au pétrin, on ne pétrit pas tout à fait pareil quand même. Voilà, on pétrit peut-être plus en douceur, on comprend un peu plus ce qui se passe dans la pâte. Et puis donc maintenant, on a des pétrins, voilà.
Des pétrins, il y en a plusieurs sortes, quoi.
Ça dépend, plusieurs sortes, oui, il y a plein de sortes. Il y en a qui sont. Qui imite carrément le mouvement des bras. Il y en a qui sont plus simples. Voilà.
Selon ce qu'on veut faire.
Et puis selon la taille de la recette. Hein. Par exemple, on a des petits pétrins pour faire les petits pains un peu spéciaux. Et on a des plus gros pétrins pour faire les pains plus importants, quoi, les pains qu'on vend plus, voilà, simplement les recettes.
Vous faites des brioches aussi
On fait des brioches, ouais.
Pain doux, tout ça.
Pain doux, ça a été une expérience terrible, parce qu'on en a fait, et tous les clients qui sont venus nous voir nous ont dit, c'est pas tout à fait comme celle de mon grand-père ou de ma grand-mère.
Oui, bon, ils sont pénibles.
Effectivement, bon, le pain doux, c'est un truc, en tout cas chez nous, au Pays de Bigoudin, voilà, c'est un truc que les grands-mères faisaient.
Oui, c'est comme le pastel chez nous, c'est un peu...
Voilà,
c'était la même période. de pain du carnaval.
Oui, voilà, c'est ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Et puis donc on a décidé d'arrêter parce qu'en fait on se rendu compte que voilà il y avait une recette par grand-mère donc
ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vous ne vous en sortiez
non,
pas.
Non, on s'en sortait pas donc bon voilà. Après voilà on a fait notre brioche qui est une recette qui est une brioche un peu à l'ancienne voilà qu'on laisse fermenter longtemps et puis qui a vraiment du goût voilà c'est intéressant voilà donc ouais. on a ce produit là.
Alors le pain, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous a séduit vraiment le coup de foudre, c'était quoi en fait?
Vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'ambiance du four, c'est l'ambiance du fournil avec la chaleur, la cuisson, le pétrissage. Il y a un ensemble de choses, d'odeurs et tout ça, d'ambiance, et puis il y a un rythme, quoi. Il y a une espèce de. Il y a une cinétique, il y a plein de choses, il y a des enjeux, il y a de la pression, il faut que quand on commence, voilà, c'est du vivant, c'est du levain.
Alors voilà, il y a ça, ouais.
Il y a le levain qui est très exigeant, donc c'est toujours un défi. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait du direct. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive, et mes collègues apprécient ça aussi, c'est qu'on arrive le soir, on démarre à 21h30, et on fait la fournée de A à Z. Voilà, y a pas, ce qui se fait beaucoup en conventionnel, c'est qu'on pétrit les pâtes qui vont rester bloquées au froid jusqu'au lendemain. Et les boulangers, le lendemain, arrivent, ils cuisent le pain que vous avez fait, et eux préparent le pain. Bon, alors ça fait une coupure, on va dire.
Oui, d'accord.
Alors que nous, on est responsable de sa production du début à la fin, quoi.
Donc à 21h30
on arrive, ouais. On commence à faire nos mélanges levain, eau, sel.
Donc le levain, vous l'avez fait
le
avant
levain, ouais. Enfin le levain, il est prêt, on a un ferment au levain. Donc ça, c'est une machine qui, c'est une espèce de grosse cuve thermostatée. On prépare le levain, donc quand on finit la nuit, nous, vers 4h, on prépare le levain. C'est un mélange d'eau, de farine, du levain de la veille. Voilà, c'est un truc qui va fermenter. Et donc, ça fermente pendant, on va dire, 3-4 heures. Et après, la température baisse un petit peu pour l'endormir. Jusqu'à ce que nous, on arrive le soir à 21h.
Ok. Et donc, voilà. Si vous arrivez à 21h, c'est pour qu'il y ait du pain chaud le matin, en fait.
C'est
ouais,
ça. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. On pourrait très bien. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de boulangers qui seraient contents de faire ça aussi, hein, de démarrer à 9h et de finir à 21h et puis de vendre le pain à 21h.
Ah
oui. Il y en a qui font,
oui,
je crois.
Oui, parce que qu'est-ce qui nous en empêche finalement d'acheter notre pain chaud en fin de journée, de pouvoir manger du pain chaud le soir? Après tout, c'est un plaisir aussi.
C'est une très bonne question. Je pense que c'est un choix collectif. On est très attachés au pain frais du matin, aux choses comme ça.
Ouais, et après, qui prend vraiment le temps d'aller acheter son pain frais le matin, franchement.
Ouais, et puis surtout, il y a des gens qui font des cuissons, on continue la journée, choses comme ça. Après, moi, j'aime travailler la nuit.
Ah, voilà.
Il y a ça aussi. Ouais. Ça fait partie du métier.
Mmh. Ouais, parce que vous dites que dans ce qui vous a plu, finalement, parce que vous disiez que vous avez rencontré le produit à un mariage, donc c'était quand même gustatif, j'imagine.
Ouais.
Mais finalement, ce qui vous plaît le plus, c'est l'ambiance du métier.
Oui.
Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des fournées la journée.
Ouais.
Vraiment, ça...
Pas pareil.
Non.
Ah ouais.
Il y a quelque chose qui...
Non.
On se met dans une ambiance, c'est particulier. La nuit, c'est très enveloppant. Il y a une ambiance, on n'est pas dérangé, il n'y a pas de coup de fil, il n'y a personne qui passe. On est vraiment dans son travail, dans son action.
Vous êtes tous les quatre?
Alors non, on se relaye.
Vous tournez, quoi.
On est entre deux et trois, ça dépend des journées. Mais en général, le troisième arrive en décalé. Et part éventuellement en décalé. Mais on travaille à deux. Et alors en plus, ça veut dire que la journée, on a dormi. Donc
oui.
On est toujours un peu décalqué.
Ah oui. Et puis votre santé, pour l'instant, ne s'en ressent pas, en tout cas.
Je pense souvent à ça, parce qu'il y a sans arrêt des études qui montrent que le sommeil, c'est important. Mais moi, j'ai tapé des fois sur Internet maladie du boulanger. Je me suis dit, si jamais il y avait vraiment des soucis liés... au travail de nuit des boulangers, ça se serait, voilà.
Parce qu'ils n'ont pas été étudiés spécifiquement, quoi, c'est ça.
Moi, je crois que ça ne convient pas à tout le monde,
ouais,
mais ça peut convenir à certains.
Bon, en tout cas, vous avez trouvé votre compte.
Après, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que la journée, il ne faut pas vivre comme si de rien n'était, quoi.
Il faut dormir un peu, quoi.
Faut dormir un peu, et puis, il faut que la famille autour fasse attention. C'est pour ça que je dis que c'est un travail d'équipe, parce que mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, ils savent qu'il y a des périodes où il ne faut pas faire de bruit parce qu'il y a papa qui dort, quoi.
Mm-hmm. Ouais, il ne faut pas avoir des voisins trop bruyants, quoi.
Il faut avoir une vie relativement.
Monacale.
Simple. Ouais, je dirais ça. C'est pour ça que les jeunes de 20 ans, ils ont un peu de mal avec ces horaires-là. Il faut être un peu, il faut être calme, quoi. Il faut avoir un mental un peu. C'est-à-dire que si le sommeil, la journée, il faut arriver à calmer ses pensées, alors que tout autour bouge dans tous les sens.
Mm-hmm.
C'est ça qui est compliqué.
Mais c'est un rythme à prendre. Mais il n'y a pas de... Quand vous êtes en congé, enfin, je veux dire, quand c'est le week-end, enfin, le, je sais pas, le dimanche, j'imagine que c'est fermé. Ça, vous ne vous décalez pas? Vous continuez à vivre sur le même rythme, alors?
Bah alors, chaque boulanger a trouvé ses astuces. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai toujours fait comme ça en intermittence. Donc, je trouve des rythmes. Par exemple, quand je suis reposé, que je n'ai pas travaillé pendant quelques jours et que je travaille le soir, tout d'un coup, j'ai un gros coup de barre à 16h, on va dire. Et donc, je vais dormir de 16 à 19, mais comme si j'étais épuisé, alors qu'en fait, je me pré-repose, on va dire. Mm-hmm. J'ai besoin de ce moment-là pour aller travailler. D'accord. Donc, il y a des mécanismes assez magiques du cerveau qui aident à vivre ça, quoi.
Et je vous ai interrompu dans votre récit de la journée, enfin de la journée qui commence à 21h30.
Alors, du coup, voilà, après on pétrit, on fait nos mélanges, on pétrit en fonction des différentes farines. Il y a des farines qui vont pousser plus ou moins vite. Et puis donc après, il y a un temps de pause. Mais bon, comme on est bien organisé, on commence par les pâtes qui vont vite et puis comme ça, on les reprend. Donc après, on les façonne. Et puis donc le façonnage dure de minuit. Alors minuit on fait la bonne pause café. Et puis après donc on peut façonner jusqu'à 3h du matin.
Et c'est pareil, le façonnage c'est pas forcément à la main. Enfin il y a des machines qui aident.
Si nous on
quoi.
Fait à la main.
Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Ouais. Façonnage c'est donner la forme au pain, c'est ça.
Ouais. Après mécaniquement on pourrait ne rien faire à la main de A à Z. Hein, ça d'accord. C'est sûr. Et après, donc, c'est à chacun, chaque boulanger, à un moment donné, a fait des compromis pour garder ce qu'il aimait faire. Voilà. Après, voilà, il y a une grosse différence avec tout ce qui est pointage en chambre de pousse. Et puis, donc, nous, ce qu'on fait, c'est du direct. Ça, c'est une vraie différence, en fait. Alors, moi, je considère que quand on fait du levain, c'est compliqué de faire de bloquer la chambre de pousse parce que ça, le levain continue toujours à travailler, ça fait une espèce d'acidité des grains comme ça qui n'est pas forcément agréable. Donc ça convient très bien à la levure, mais pas forcément au levain.
Donc quand il est façonné, il est prêt à être cuit en fait le pain, c'est ça?
Après il y a un deuxième temps de pause.
D'accord, quand même. On va dire combien de temps alors?
Bah, ça va dépendre du temps, du pétrissage, c'est très variable. Alors ça, en bio, par contre, c'est vraiment le truc important, c'est qu'on a vraiment des choses qui ne sont pas calibrées du tout.
Mais ça peut aller de combien à combien, en gros
Alors, en gros, on peut entre le moment où on fait les mélanges et les moments où on cuit, il peut se passer entre 4 et 6 heures.
Ah oui, donc voilà. C'est quand même pas... Vous ne laissez pas le pain attendre une journée, pousser
non,
journée, quoi.
Il y en a qui font, y en a qui vont... c'est un peu tous les... Bon, après, ça finit par être un peu fort en goût, quoi.
C'est ça,
il y a des gens qui aiment bien.
Oui, voilà.
Donc l'idée, c'est trouver comme ça un bon compromis entre le goût, la pousse, voilà. Donc c'est à chacun, après, de poser un peu son... C'est choix, quoi. Mm-hmm. Mais donc après, la cuisson dure une petite heure. Voilà.
Et pendant la pousse, vous faites autre chose? Enfin, comment ça se passe?
Bah, c'est là qu'on va éventuellement préparer les brioches, cuire les gâteaux, faire le ménage.
Mmh. Mais pas trop quand même, parce que je crois qu'une boulangerie, ça doit rester relativement sec, faut pas trop d'humidité.
Oui,
c'est ça?
Ah bah, c'est sûr que. Ouais, c'est sûr. Bah oui, parce que l'eau et la farine, ça fait du levain, ça travaille, tout ça. Donc le nettoyage à sec, c'est sûr que c'est le secret. Hein, ça, c'est sûr. Mais bon, après, comme je disais, il y a des pâtes qui vont plus ou moins vite. Ils vont faire monter plus vite, donc en fait elles vont aller plus vite au four, et pendant qu'elles sont au four, on travaille le reste.
Mmh. Voilà. Donc, et une cuisson, j'ai aucune idée, enfin, ça dure combien de temps? C'est pareil, ça dépend.
Trois quarts d'heure, un kilo.
Ah oui, d'accord, ok.
Ouais, ça dépend du four. Les petites pièces cuisent plus vite, les grosses pièces ont le temps de pousser longtemps. Alors ce qui est sympa avec les grosses pièces, nous on fait des grosses boules de 2 kilos, et alors on peut aller un peu loin dans la cuisson. Ce qui permet en fait d'avoir une croûte qui est bien colorée. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on sort le pain du four, il y a une opération qui se fait qui est un petit peu magique. C'est il va dégager beaucoup de vapeur. Donc, il y a de la vapeur qui sort du pain et en échange, il y a de l'air qui rentre.
Mm-hmm.
Et dans c'est ce moment-là, la croûte va envoyer du goût à l'intérieur du pain.
Ah.
Ouais.
Donc, il ne faut pas se louper.
Donc il y a plein de choses magiques comme ça dans le pain, des opérations un petit peu invisibles qui font que, voilà, il y a plein de choses qui donnent du goût à la fin, ou qui poussent et qui ne poussent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant « je ne comprends pas, je fais tout bien et puis ça ne pousse pas ». Bon, c'est une petite suite de plein de petites choses un peu délicates.
Uh-huh.
que nous on finit par faire de manière un petit peu intuitive comme ça.
Ouais. C'est l'expérience. Mais hein, voilà, 20 ans d'expérience.
Et puis, ouais, et puis ouais. c'est un peu voilà, c'est le travail de la pâte. On est nous on est tout le temps, enfin mes jeunes, les jeunes qui sont avec moi aussi, on est tout le temps en train de discuter des pâtes.
Ah ouais.
On passe, on est tout le temps en gros une main sur la pâte en disant oui ceci là, hier ça c'est, il s'est passé ça. Voilà, c'est très très variable, très capricieux en fonction du temps, en fonction des livraisons de farine. Les farines ne sont pas toujours les mêmes.
Vous avez un seul fournisseur, hein, c'est ça
on a deux fournisseurs et ils ont des, on est obligé parce que les particularités, enfin les caractéristiques sont différentes, donc ça permet de compléter un peu quand il y en a une qui est un petit peu faible en force. On utilise l'autre, voilà.
C'est comme... Ça veut dire quoi, faible en force?
Bah, les farines ont des caractéristiques mécaniques et gustatives. Ça, j'imagine que le meunier a dû vous en parler.
Ouais.
Et donc, bah, par exemple, les blés anciens, ils sont moins riches en gluten, ce qui est bien.
Oui.
Et en même temps, le gluten, c'est ce qui permet aussi d'avoir la mécanique du pain qui fait que ça se pétrit bien et ça lève bien. Donc, il faut, voilà, encore une fois, il en faut, mais pas trop.
Vous faites des mélanges subtils de farine, en fait, c'est ça parfois, quoi, en fait pour,
Alors, ça, on a des mélanges de seigle, d'épeautre, on fait nos propres mélanges.
Combien vous disiez, vous avez une petite gamme, c'était combien, en gros, de modèles de pain vous avez
Je pense une vingtaine.
Ah oui, quand même.
Voilà,
oui.
Ouais.
Et ça, c'est une petite gamme. Pas tellement finalement.
Je sais pas. Bah, après le panel est très très large. Hein. Il va y avoir des boulangers qui vont faire un pain et c'est très bien.
Mm-hmm.
Ils vont se concentrer sur un pain. Puis d'autres qui s'éclatent à faire des milliers de recettes parce que c'est infini.
Ouais. Ah bah oui, j'imagine.
Voilà.
Ouais.
Donc
ouais.
En fait voilà chacun fait comme il sent quoi. Mais nous on est pas mal avec ça. Voilà, ça correspond.
Et alors, on dit beaucoup, là, en ce moment, on entend parler de cris d'alarme de boulangers à cause du prix de l'énergie, des matières premières, etc. En plus, la bio qui va pas bien, vous l'avez mentionné. Alors, comment allez-vous, vous, dans votre boulangerie?
Alors, quand on parle de l'énergie, il y a vraiment deux équipes. Il y a ceux qui travaillent avec des chambres de pousse qui ont beaucoup de froid. Dans la facture du boulanger, il y a les fours. Bon, les pétrins, pas tant que ça, parce que ça ne tourne pas si longtemps que ça. Il y a des fours et il y a le froid. Beaucoup le froid. Voilà, c'est
oui,
ça.
C'est vrai. Hein.
Et donc, en fait, si les boulangers conventionnels, pour plein de raisons qui se justifient, ils sont allés petit à petit vers ce modèle-là.
Ça leur permettait de gagner du temps, c'est ça, en fait?
Ouais,
la
chambre de pousse, ça permet de maîtriser. Ça permet aussi aux boulangers de démarrer plus tard. Quoi. Ils vont démarrer à 4h, 5h du matin. Donc, je pense qu'effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas commencer à 21h30, hein, ça, c'est sûr. Il y a aussi les coûts. On peut stocker, on peut bloquer, on peut cuire en continu. Voilà, je pense que c'est au niveau des flux, tout ça. Voilà, et puis...
Donc ça a été intéressant en termes économique.
Économiquement, ça a été super intéressant.
Mais là, ça l'est moins.
Ben là, ça l'est moins, du coup. C'est sûr que là, moi, j'entendais des boulangers qui disaient, ben, on commence à changer nos habitudes. Par exemple, ben, on ne va pas laisser le four allumé toute la journée. Mais imaginez, vous gardez votre four chez vous allumé toute la journée. Énergétiquement, c'est fou, quoi.
Ouais.
Et puis aussi, ben, le froid, ça permet aussi de commander des croissants tout faits par carton et d'avoir des promos et de stocker, de sortir juste ce qu'on a besoin. Et au dernier moment, bah, si on en a pas assez, voilà. Donc, je pense que ça a facilité énormément le travail. Alors moi, je pense souvent aux paysans avec les pesticides.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, ça sûrement. Enfin, moi, je suis pas spécialiste, mais ça a simplifié beaucoup de choses.
Oui, c'est sûr.
Ça leur a arrangé la vie pour plein de choses, pour la production et les boulangers. Et alors donc maintenant, on est quand même sur, on voit bien qu'il y a une limite au système. Et je pense que les boulangers vont être obligés aussi de rentrer dans dans un nouveau mode de fonctionnement. Si l'énergie devient compliquée comme ça, c'est sûr que c'est terrifiant, leur facture. Ouais.
Hein. Tandis que vous êtes... pas grand-chose. Les pellets sont un peu plus chers maintenant.
Oui,
le bois est un peu plus cher. Mais...
Ils ont doublé.
Ils ont doublé quand même. Mais ça n'a pas un impact énorme sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires.
C'est un impact. Mais c'est par rapport à ce que les boulangers ont subi comme augmentation de facture d'électricité. Mais déjà, nous, on a une toute petite facture d'électricité. Déjà, on travaille la nuit. Donc, et puis bon, on a un granulé, donc on n'a pas de four électrique, on n'a pas de froid pratiquement, on a trois frigos, mais pas beaucoup plus que la ménagère, hein, en fait.
Et vos farines, ça n'a pas trop augmenté non plus? Enfin, les matières premières, en l'occurrence
Les farines ont augmenté, un peu en décalé, c'est-à-dire que... C'est des augmentations qui sont de l'ordre de 5%.
Ça va,
donc
quoi.
Nous, on a augmenté aussi de...
5%. Mais ça va, enfin, c'est spécifique.
C'est pas non plus... catastrophique. Après, ouais. on craint un peu pour tout ce qui est comme le beurre, par exemple. Voilà, le beurre,
voilà, oui.
on attend un peu le virage, mais ouais. c'est pas encore net. Hein, c'est pas... Puis il y a la spéculation là-dessus. Donc voilà, il y a des enjeux. Bon, c'est sûr que bon, nous, on est dans du bio, de la farine locale. Donc bon, voilà, je pense que la guerre en Ukraine a un peu moins impacté. C'est sauf ça. Que ça impacte le marché. Du coup, ça joue quand même.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, nous, on est... On
et puis, assez... vous avez une clientèle peut-être extrêmement fidèle qui ne vous en veut pas d'augmenter 5%. Il y a bah, ça aussi,
ils étaient même plutôt étonnés qu'on ne l'ait pas encore fait. Voilà. Voilà ouais. C'est,
donc là,
bon, tout le monde est un peu résigné par rapport à ça.
Bah, hein. J'imagine. Mais finalement, les boulangers bio, au final, s'en sortent mieux, là, concrètement. Bah,
ceux qui ne font pas de la chambre de pousse et tout ça, parce qu'il y a des grosses boulangeries bio qui font... qui utilisent beaucoup aussi de... d'électricité, ouais. mais sans doute de toute manière moins que le conventionnel. Ça, c'est après, moi, autour de moi, les boulangers que je connais, ils sont tous à peu près de la même taille que moi. Ils sont tous, même si ils bloquent un petit peu au froid, ça reste raisonnable, quoi.
Le pain nous a parlé, c'était Parole de pain avec Julien Floc. Merci
déjà
beaucoup. Mais oui, déjà.
Ah, c'est dommage.
Tout le monde dit ça. Bah, vous reviendrez.
Avec plaisir.
À bientôt.
Avec plaisir.
Dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM avec Antoine Logini qui va nous promener dans les lectures.